une très bonne question pour vous. Devons-nous être effrayés par la lecture et l'étude de l'Apocalypse? La parole de Dieu va nous donner une réponse rassurante. Aujourd'hui même, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, j'ai souvent lu le livre de l'Apocalypse et le Seigneur m'a révélé de belles choses, des promesses pour ceux qui l'aiment. Mais après l'enseignement qu'on a reçu au cours des dernières émissions, eh bien, je suis convaincue qu'on vient d'entreprendre un très beau voyage au cœur de la parole de Dieu. Allons voir ensemble ce que le Seigneur nous réserve en réponse aux questions que voici. Quelle signification a le chiffre 7 dans la Bible? Devons-nous être effrayés par la lecture et l'étude de l'Apocalypse? Comment le livre de l'Apocalypse nous décrit-il le Seigneur Jésus? Quand la Bible mentionne le retour de Jésus sur la terre, parle-t-elle d'un retour symbolique? Y a-t-il une distinction entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus en tant que roi? Comment se fait-il que Jésus est le commencement et la fin? Quand Jésus dit qu'il a part avec nous à la tribulation, parle-t-il de la grande tribulation? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner la vérité de Dieu en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, on vient te demander ensemble de disposer nos cœurs afin qu'il n'y ait aucune distraction qui nous empêche de comprendre le message que tu as pour nous aujourd'hui. Parle par la bouche de ton serviteur et touche-nous profondément. Change des choses dans notre vie. Aide-nous, transforme-nous pour toi, pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous poursuivons notre étude dans le livre de l'Apocalypse. Salutations de Jean. Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Jean aux sept églises qui sont en Asie. L'Asie décrite ici n'est pas le grand continent que nous connaissons aujourd'hui. Il comprenait alors une grande partie de ce que nous appelons maintenant l'Asie mineure ou la Turquie actuelle. On note que l'apôtre Jean n'ajoute aucun titre ou signe distinctif à son nom. J'ai l'impression que l'apôtre était bien connu de ces sept églises. Nous savons qu'il avait été pasteur de l'église d'Éphèse et apparemment, il avait un droit de regard sur les églises de la région. Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur le chiffre 7. Dans ce seul verset, ce chiffre est mentionné deux fois avec les sept églises et les sept esprits. Le chiffre 7 revêt une dimension religieuse dans la parole de Dieu. Elle était connue de tous à l'époque de l'apôtre Jean, mais nous est totalement étrangère aujourd'hui. Le monde a retenu un reste pervers de cette dimension, dans ses superstitions. Le monde des jeux et des paris est très conscient des chiffres, mais nous avons oublié la signification religieuse des chiffres. Toutefois, dans la parole de Dieu, le chiffre 7 est important. Il n'indique pas la perfection, mais il dénote la plénitude. Parfois, la plénitude égale la perfection, mais pas toujours. Le chiffre 7 représente donc quelque chose de complet. D'une façon particulière, 7 est relié à l'alliance de Dieu et sa relation avec Israël. Par exemple, le sabbat, la circoncision et l'adoration tournent tous autour du chiffre 7. En parcourant la Bible, on note que le peuple a fait le tour de Jéricho environ 7 fois. Naaman a reçu la consigne de se tremper 7 fois dans le Jourdain. L'Égypte a connu 7 années d'abondance et 7 années de famine au temps de Joseph. Nébuchadnezzar, roi de Babylone, est devenu fou pendant 7 ans. On trouve 7 requêtes dans le Notre Père et cette parabole dans le 13e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Sept pains ont nourri la foule lors de la multiplication. Jésus a parlé sept fois sur la croix. Et dans le livre de l'Apocalypse, le chiffre 7 ne peut pas être négligé, car il n'est pas là par hasard. Il est le chiffre clé du livre. Au 4e verset, donc, l'apôtre Jean écrit « aux sept églises ». Trouvait-on d'autres églises dans cette région? Oui. Nous savons que des églises avaient été implantées à Colosse, à Milet, à Hierapolis, à Troas et en plusieurs autres endroits. L'apôtre Jean a donc reçu la directive d'écrire aux sept églises, mais Hierapolis ne faisait pas partie du groupe, même si la ville était un important centre d'influence chrétien. On y trouve aujourd'hui jusqu'à 4 sites de ruines d'églises chrétiennes datant de cette époque. Mais Jean avait reçu l'ordre d'écrire seulement à ces 7 églises, car elles représentaient l'histoire de l'ensemble de l'Église de Jésus-Christ. Nous reviendrons sur ce point plus tard. L'Asie de ce temps-là comptait plusieurs provinces comme la Lydie, la Mysie et certaines parties de la Phrygie. Nous ne devons donc pas comprendre le continent d'Asie tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il n'indique pas non plus la totalité de l'Asie mineure. En fait, le terme « Asie mineure » n'a pas été utilisé avant le 4e siècle après Jésus-Christ. Il se réfère surtout à la partie de l'Asie mineure qui longe la côte. « Que la grâce et la paix vous soient données. » Le mot du texte original est « charis ». Il s'agit de la forme habituelle de « bienvenue », un peu comme l'hébreu « shalom », le latin « Ave, ou le français « salut ». La paix vient de la grâce de Dieu, et cette dernière est la source de toute bénédiction encore aujourd'hui. Le livre de l'Apocalypse nous révèle la grâce de Dieu et sa paix. Le chrétien n'a aucune raison d'être effrayé par la lecture et l'étude de l'Apocalypse, car il peut tenir la paix de Dieu dans son cœur. Cette grâce et cette paix sont données par celui qui est, qui était et qui vient. Cette expression souligne l'éternité et l'immuabilité de Dieu. Elle peut donc faire référence à Dieu le Père. La grâce et la paix nous sont aussi données par les sept esprits. Ces sept esprits font référence au Saint-Esprit, comme nous le verrons plus tard avec les sept branches du chandelier. Au prochain verset. Nous verrons aussi que cette grâce et cette paix nous sont données par Jésus-Christ. Les trois personnes de la Trinité sont donc impliquées. Sept caractéristiques de Jésus. Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans ces deux versets, plusieurs caractéristiques sont attribuées au Seigneur Jésus-Christ. Et comme on pouvait s'y attendre, elles sont au nombre de sept. Premièrement, nous avons le témoin fidèle. Jésus-Christ est le seul témoin digne de confiance des faits relatés dans ce livre. Ces faits le concernent et il les atteste. Il est parfois difficile de croire aux hommes, mais nous pouvons croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, le premier-né des morts est une référence à la résurrection de Jésus. Il est le premier à ressusciter d'entre les morts pour ne plus jamais mourir. La mort était comme un ventre maternel qui l'a porté. Il a jailli de la mort vers la vie. La tombe était également comme un ventre maternel qui n'a pas pu le retenir. Jésus est le seul à être ressuscité des morts avec un corps glorifié. Personne d'autre n'avait encore pris ce chemin. Mais tous les enfants de Dieu le suivront éventuellement dans sa résurrection. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Viendront ensuite l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ sur la terre. Troisièmement, le prince des rois de la terre. Nous parlons ici de sa position ultime pendant le millénium, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quatrièmement, à celui qui nous aime. On remarque le temps présent du Verbe. Il indique une attitude constante de Jésus envers son peuple. Le livre de l'Apocalypse ne devrait pas trop nous effrayer, car il nous vient de celui qui nous aime. Jésus-Christ ne nous aimait pas seulement lorsqu'il est mort pour nous sur la croix. Même s'il nous aimait certainement à ce moment-là, il nous aime autant aujourd'hui. À cette minute même, si vous êtes un enfant de Dieu, rappelez-vous de l'amour de Jésus pour vous. Cinquièmement, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le sang de Jésus-Christ n'est pas seulement un symbole. Le sang d'un homme a vraiment été répandu pour nous sur la croix. Heureusement, Jésus-Christ n'était pas seulement un homme, il était aussi pleinement Dieu. Il est l'agneau sans tache qui nous purifie de nos péchés avec son sang répandu. Dans Lévitique, chapitre 17, verset 11, Dieu a enseigné à son peuple que « la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. » Quand Jésus-Christ a versé son sang, je pense que chaque goutte est sortie de son corps. Il l'a donné pour vous comme pour moi. Il a donné sa vie. Il est mort. Et nous serions mal avisés de diminuer la valeur de ce sacrifice. Le sang de Jésus-Christ est plus précieux que l'or. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, on peut lire. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Grâce à ce sang répandu pour nous, l'apôtre Paul pouvait écrire à son jeune disciple dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et il nous a délivrés de nos péchés par son propre sang. Il s'est livré lui-même pour nous. Quelle merveilleuse preuve d'amour! Sixièmement, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Les croyants sont un royaume de sacrificateurs qui régneront avec le Seigneur Jésus. Quand il reviendra sur la terre et il éliminera toute injustice. Mais avant de revenir sur la terre en tant que roi, Jésus reviendra dans les airs et de là, il appellera à lui son Église au cours de l'événement connu sous le nom d'enlèvement de l'Église. Les croyants de ce temps-là monteront à sa rencontre dans les airs. Notre Sauveur viendra comme un époux vers son épouse. Car l'Église est connue dans la Bible comme l'épouse de Jésus-Christ. Il l'aime et il s'est livré pour elle. Remarquons qu'il est écrit dans notre verset « des sacrificateurs pour Dieu son Père ». Pourquoi n'a-t-il pas dit « pour Dieu notre Père » ? Parce qu'il est le Père de Jésus dans un sens où il n'est pas le nôtre. Le croyant devient enfant de Dieu par la régénération. Il est né de nouveau en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur personnel. En un sens, nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption en Jésus-Christ. Mais la position éternelle de Jésus-Christ dans la Trinité en est une de fils. Et septièmement, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. L'éternité de la position de Jésus-Christ est soulignée ici. Amen. Jésus-Christ est l'Amen, comme nous l'avons vu dans le prophète Ésaïe. ces sept caractéristiques de Jésus nous montrent qu'il est le sujet et l'objet de ce livre. Il est celui qui met en branle tous les événements et tous les événements tournent autour de sa personne. Il est le but ultime et éternel de toute chose. Les choses n'ont pas seulement été faites par lui, mais également pour lui. Notre univers existe pour lui. Le retour de Jésus. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Voici, il vient avec les nuées, nous indique la venue personnelle et physique de Jésus-Christ. Et tout œil le verra. Il ne s'agit pas d'un retour symbolique. Il y a à peine un siècle, une telle chose aurait été considérée impossible. Comment le monde entier pourrait-il voir le même événement? Mais depuis l'invention de la télévision et de la communication par satellite, une telle chose est devenue non seulement possible, mais elle fait partie de notre quotidien. Ici, nous devons bien distinguer l'enlèvement de l'Église du retour de Jésus-Christ en tant que roi. Au moment de l'enlèvement, les pieds de Jésus-Christ ne toucheront pas la terre. Les croyants viendront plutôt à sa rencontre dans les airs. Plus tard, quand Jésus reviendra en tant que roi, à ce moment, tout œil le verra. Il viendra alors sur la terre pour y établir son royaume. Ses pieds toucheront le sol. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Cette partie du verset contient possiblement une allusion à une prophétie de l'Ancien Testament, contenue dans le prophète Zacharie chapitre 12 verset 10. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Pour Zacharie, il est question ici des 12 tribus du peuple d'Israël. Grâce à l'Esprit de Dieu, ils comprendront enfin que le Messie promis par Dieu est celui qu'ils ont fait crucifier. Ils pleureront alors et se lamenteront. On se rappelle qu'après l'enlèvement de l'Église, le peuple d'Israël restera le seul témoin de Dieu sur la terre. Il est également possible que ce ne soit pas seulement Israël, mais tous ceux qui auront rejeté Jésus-Christ, qui se lamenteront en le voyant. Le monde ne voudra pas le voir, mais ils n'auront plus le choix. Oui, amen. Le Seigneur affirme que ces événements arriveront, et il ne changera pas d'idée. Le commencement et la fin. Apocalypse, chapitre 1, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Je suis l'alpha et l'oméga. Rappelons-nous que le Nouveau Testament a d'abord été écrit dans la langue grecque. Alpha et oméga sont respectivement la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. En fait, notre mot alphabet vient des deux premières lettres de l'alphabet grec, alpha et bêta. À partir d'un alphabet, nous pouvons faire des mots, et Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. Il est la complète révélation et l'intelligible communication venant de Dieu. Il est le seul alphabet que nous puissions utiliser pour nous rendre jusqu'à Dieu. Le seul langage que Dieu daigne parler et comprendre est celui où son Fils Jésus-Christ est l'alpha, l'oméga et toutes les autres lettres entre les deux. Si vous voulez communiquer avec Dieu, vous devez passer par son Fils. Comme il le dit lui-même dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Un autre détail curieux attire l'attention dans le texte original grec. Seule la première lettre alpha est épelée tout au long. L'oméga est seulement écrit avec la lettre en forme de W qui la représente. Parce que Jésus-Christ est le commencement, et le commencement est déjà complété. Mais la fin reste à venir. C'est pourquoi il n'a pas épelé l'oméga. Mais un jour, le programme complet de Dieu sera terminé. Jésus est le commencement et la fin, car il est éternel et immuable. Hébreux chapitre 13, verset 8, abonde dans le même sens. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment Jésus est-il le même? Cela ne signifie pas qu'il marche encore sur les plages de la mer de Galilée. Cela signifie que ses caractéristiques et ses attributs sont les mêmes. Il n'a pas changé, car il est éternellement parfait. Il est immuable. Et puisqu'il est le commencement et la fin, il couvre l'ensemble du temps et de l'éternité. Le texte précise, dit le Seigneur Dieu. Une fois de plus, la divinité du Seigneur Jésus-Christ est affirmée. Celui qui est, le temps est présent et il s'agit du Christ glorifié. Qui était, le temps désigne le passé. Il s'agit de la première venue corporelle du Seigneur Jésus en tant que Sauveur il y a 20 siècles. Et qui vient, le temps désigne le futur. Il s'agit du retour de Jésus-Christ quand il reviendra en tant que souverain de la terre. Dans les versets 4 à 8, nous avons vu les salutations de l'apôtre Jean et du Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous que le Seigneur nous a dit qu'il aimait les enfants de son Père, qu'il a lui-même appelé à leur Créateur. Ne soyons donc pas effrayés de le suivre là où il nous conduit. Le Christ glorifié qui juge son Église. Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. « Moi, Jean » est une expression employée 3 fois dans le livre de l'Apocalypse. Les 2 autres se trouvent vers la fin. « Votre frère qui est part avec vous à la tribulation. » Il ne s'agit pas ici de la grande tribulation qui se produira seulement après l'enlèvement de l'Église. L'apôtre Jean connaissait sa part de problème. Domitien, l'empereur romain, l'avait envoyé en exil sur l'île de Patmos. L'apôtre exerçait un rôle actif dans l'église d'Éphèse et il supervisait les autres églises de la région. Il enseignait la parole de Dieu. Et vous connaîtrez des problèmes si vous exercez correctement ce ministère. L'apôtre Jean avait sa part de tracas, tout comme l'église du premier siècle. Si vous connaissez des problèmes en enseignant la parole de Dieu, dites-vous qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais l'apôtre Jean n'avait pas seulement part à la tribulation, mais aussi au royaume et à la persévérance en Jésus. Car le croyant connaît déjà le royaume des cieux, dans une certaine mesure, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il ne s'agit pas encore du royaume du millénium, car celui-ci sera seulement inauguré au retour corporel de Jésus-Christ sur la terre. Quelqu'un a déjà dit que nous vivons aujourd'hui dans le royaume de la patience. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. L'apôtre Jean nous explique la raison pour laquelle il se trouvait sur l'île de Patmos. Domitien l'avait envoyé là en exil autour de 86 jusqu'en 96 après Jésus-Christ. Il s'agit d'une île volcanique au relief accidenté d'environ 16 kilomètres de longueur et de 10 kilomètres de largeur. Nous poursuivrons notre étude de l'Apocalypse de l'apôtre Jean au cours des prochaines émissions. En attendant, j'aimerais simplement vous rappeler que cette grande vision a été donnée à l'apôtre sur l'île solitaire de Patmos. Il a vu le Christ glorifié alors qu'il jugeait son Église. Nous verrons donc le souverain sacrificateur, oui, le grand prêtre, dans le lieu saint des saints, en train de porter son verdict sur son Église. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Apocalypse, chapitre 1, les versets 10 à 13. À vous tous, bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Mes amis, quelle belle description du Seigneur Jésus, et ce, dans seulement quelques versets. Celui que tous les croyants aiment tant est le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Il est celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ce n'est pas surprenant que Jean finisse cet énoncé en disant « À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. » Mes frères, mes sœurs en Jésus-Christ, on n'est pas seulement des enfants de Dieu, mais Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est pourquoi notre but est de servir Dieu maintenant et pour l'éternité. Pour ma part, pour ce qui est de servir Dieu maintenant, c'est une grande joie. Même si parfois il y a des souffrances, des chagrins, tout ça en vaut la peine parce que je sais que lorsque je le servirai dans son royaume, tout sera parfait. Il n'y aura plus de douleur, uniquement de la joie, de la paix et plein d'amour. Et je verrai Dieu face à face. Quelle grâce il m'a accordée. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, est-ce que ça te réjouit de servir ce Maître merveilleux? Celui qui a payé de son sang pour qu'on devienne des enfants de Dieu et même des serviteurs du Dieu vivant? Je l'espère pour toi. Dans le psaume 100, au verset 2, le psalmiste nous dit de servir l'Éternel avec joie. Et dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 24, l'apôtre Paul, qui a pourtant dû souffrir beaucoup au cours de sa vie, dans son ministère, nous a cité des paroles que j'ai apprises par cœur, afin de ne pas les oublier. Et de temps en temps, quand ma route est plus chaotique, le Seigneur me rappelle ce verset. Voici ce qu'il dit. « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et ça me remet les idées à la bonne place. Et toi, mon ami, toi qui nous écoutes en ce moment, toi qui ne sais peut-être pas ce qu'est la bonne nouvelle, permets-moi de te l'annoncer. C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, il n'y a pas de meilleure nouvelle que ça sur toute la terre. Peu importe les temps dans lesquels nous vivons, cette bonne nouvelle est d'actualité en tout temps et elle est pour toi. Alors, mon ami, connais-tu le Fils de Dieu? Connais-tu Jésus? Crois-tu qu'il est Dieu et qu'il s'est fait homme pour venir payer la dette de nos péchés en mourant sur la croix? Si tu es une bonne personne qui ne fait pas grand-chose de mal, tu vas peut-être dire que tu n'es pas pécheur, que tu n'es pas pécheresse. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole que tous ont péché. Il n'y a donc pas d'exception. Et si tu ne pèches pas beaucoup, il reste que tu es quand même un pécheur. Même s'il n'y a qu'une pomme dans un pommier, il s'agit quand même d'un pommier. Alors, mon ami, demande à Jésus de te sauver. Il a dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Tu pourrais nous quitter aujourd'hui en disant, « J'ai maintenant la vie éternelle. »
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.